Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Salut à tous, c'est Raphaël Dacruz pour le podcast BPM de Bouscapé, une émission pendant laquelle on échange avec des producteurs sur leur parcours, leur discographie et leur réflexion musicale. Et aujourd'hui, on accueille Twinsmatic. Salut Twinsmatic.
Salut.
Bienvenue dans BPM.
Merci beaucoup.
Merci à toi d'être là. Twinsmatic, tu es producteur, réalisateur qui a d'abord fait partie du duo du même nom avec ton ancien comparse Nadim avant de continuer à faire vivre ce nom en solo. Tu as composé pour de nombreux artistes dans le rap, tels que Booba, Damso, Take Mike, Dino, Zixo, Dossé et quelques autres. Tu travailles aussi avec des artistes qui ont des directions plus pop ou R&B, comme Ordaya et Marge. Et ta belle actualité en ce début 2024, c'est la sortie de l'album La Cour des Miracles de Esprit Noir, que tu as entièrement produit et réalisé. On va évidemment parler de cet album-là. Mais j'aimerais d'abord qu'on revienne un peu sur ton parcours d'auditeur avant ton parcours de musicien. Mm-hmm. C'est quoi ton premier souvenir lié à la musique ?
Mon premier souvenir lié à la musique... C'est en vrai le R&B, hein.
Ok.
Tout simplement, ouais. J'ai
un disque, un morceau, un artiste en particulier.
Là, comme ça, tout de suite, je dirais Alia, mais je pense qu'il doit en avoir d'autres. Mm-hmm. Mais
conscient, il y a quelque chose de conscient avec Alia, en tout cas, dans ton goût pour cette musique-là.
Ouais, complètement. Bah, surtout par rapport au prod, tu vois, de Timbaland. Mm-hmm. C'est un truc qui m'a tout de suite attiré, tu vois, au niveau du groove, au niveau de l'ambiance aussi, des textures, des samples, tu vois, aussi qui étaient utilisés.
Ouais.
Je trouvais que c'était différent, que c'était singulier. Et ouais, j'ai tout de suite accroché. Et après, oui, non, bien sûr, tu vois, il y en a plein d'autres, mais c'est vrai que le R&B est. À une place fondamentale, tu vois, genre dans même aujourd'hui, tu vois, dans mon process créatif.
Tu découvres Alia, cet album One in a Million, à sa sortie ou c'est plus tardif ?
Non, je crois que je découvre à la sortie.
Donc on est en 96 de mémoire.
Ouais, quelque chose comme ça, à la sortie. Et puis même, tu vois, je sais pas si tu te souviens, il y avait aussi eu le film Romeo Must Die.
Tout à fait, avec notamment Try Again dans la BO.
Exactement. Voilà. Très gros clip, très gros morceau.
De fou.
Puis même le film, à l'époque, il était cool et tout. Donc, ouais, c'est quelque chose qui m'a marqué, ouais.
BBP, qu'on a reçu à l'occasion de la sortie de son album en tant que Sandorweiss, nous en parlait justement de ce morceau de Try Again, à quel point lui, c'était peut-être sa prod la plus marquante de Timbaland. Donc, voilà.
Ouais, non, de fou. C'est sûr qu'il y a quelque chose qui, surtout à cette période-là, qui est vraiment différent, quoi.
Timbaland, ça fait partie de tes premières grandes références justement en termes de producteur au moment où tu commences toi à t'intéresser à la production.
Ouais, complètement. Complètement. Je pense que en vrai, ça doit être les Neptunes et Timbaland à cette période-là.
Ouais, ça l'aide pair en général quand on s'intéressait à la production à cette époque.
Ah ouais, ils viennent du même endroit et au final, tu vois, genre même dans le groove et dans les sonorités, il y a pas mal de similitudes, tu vois. Ils ont ce son de Virginie, tu vois, genre où c'est... tu vois, ils étaient même ensemble, je crois...
Dans le groupe Surrounded by Idiots.
Exactement. Ouais. Et non, ça s'entend et je pense que c'est assez normal. Quand tu kiffes Timbo, forcément, t'as plus de chances de kiffer aussi les Neptunes, tu vois.
T'as grandi dans un environnement musical qui a fait que t'avais des, entre guillemets, des prédispositions à t'intéresser à la musique et à en faire ou pas forcément ?
Ouais. Mes parents, mon père qui vient de Martinique et ma mère qui vient d'Argentine, tu vois, genre, on a une très... la musique, il y a une très grosse place, tu vois, genre, culturellement, c'est genre, c'est hyper important. Après, tu vois, ce qui est assez marrant, c'est que niveau musical, j'ai aucune culture française, tu vois, c'est le néant. Mais ouais, chez moi, quand j'étais petit, c'était vraiment... salsa ou zouk ou tu vois la musique des îles ou d'Amérique latine tu vois donc ouais j'ai baigné dedans de fou Et ça, comme je te l'ai dit, ça a une très grande place, tu vois.
Donc, ça nourrit ta curiosité et ta passion pour le son, quoi.
Ouais, complètement. Donc, j'ai grandi dans ce truc-là. Mais encore une fois, ce qui est très marrant, c'est que, tu vois, des fois, ça m'arrive d'être en studio avec des artistes qui me parlent de chansons françaises, mm-hmm. tu vois, où en vrai, je connais pas grand-chose, tu vois. Okay.
À quel moment ce goût pour la musique, ça s'est transformé justement en envie de faire de la musique? Est-ce que tu te souviens d'un deux moments, il n'y a peut-être pas un moment en particulier, mais deux moments justement où tu as commencé à avoir une envie, une sensibilité pour la création musicale?
Ouais. Bah, déjà, il y avait, tu sais, quand YouTube s'est arrivé, les gars, ils commençaient un peu à poster des vidéos d'eux en studio. Donc, en fait, de voir le processus créatif, c'est un truc qui m'a tout de suite attiré. Ryan Leslie, tu vois, genre ses vidéos.
Bien sûr, ça c'était une référence pour une génération, ouais.
Ouais, complètement. Même si tu vois, genre, avec le recul, tu te dis, genre, c'était des sacrées mises en scène.
Oui. Il avait un côté showman.
Ah, complètement, Leslie, tu vois. Ouais. Mais après, c'est le côté carry, du divertissement. Mais il montrait quand même, tu vois, genre, c'était l'un des seuls qui montrait le processus. Et puis même, tu vois, genre en tant que producteur, c'était quelqu'un de très fort. C'était un musicien, mm-hmm. tu vois. Il utilisait des vrais instruments. Il y avait aussi des vrais synthés. Là où, en vrai, on était sur une période où la musique assistée par ordinateur, tu vois, genre elle était en pleine expansion.
Tout à fait.
Donc, il y avait un truc d'authenticité, pardon, qui me parlait directement, tu vois, où je me disais, ouais, en fait, c'est trop chaud, tu vois. Genre, ce gars-là, il est trop chaud, j'adore le processus, de voir comment il arrivait à empiler les layers de chaque instrument, comment il arrivait à construire un univers et tout. Je trouvais ça trop cool. Et puis, tu vois, genre, après, ça aussi, ça, de par ses vidéos, ça a affiné, tu vois, genre, ma réflexion et mon écoute, tu vois, genre, musicale. Ou vraiment, quand maintenant, tu vois, genre, j'écoutais un titre, bah, je me penchais vraiment sur la réalisation, tu vois. Genre, comment, de quoi il est parti, c'était quoi l'inspi, pourquoi ce genre de sonorité. Et donc, ouais, voilà.
Alors, justement, à partir du moment où tu vois un peu l'arrière-boutique, c'est-à-dire ce making-of, ces coulisses de la création musicale, ça a été quoi l'étape pour toi dans le fait d'être actif? Est-ce que t'investis dans du matériel, tu craques un matériel. Est-ce que tu te souviens un peu de ces premières sensations et ces premiers moments où tu transformes ces idées de manière un peu pragmatique, quoi?
Ouais, je m'en souviens vaguement. Mais bah forcément, ça commence par télécharger un logiciel. Je crois j'ai commencé sur Reason.
Mm-hmm. C'est pas le plus simple pour commencer en plus, je pense, non?
Franchement, non, c'est horrible. Ouais. L'interface, elle est vraiment horrible. Il n'y a rien d'ergonomique. C'est un rack, tu comprends pas. Enfin, ouais, c'est un peu bizarre, tu vois. C'est pas du tout intuitif, ni attirant, tu vois. Mais je sais pas, je sais même pas pourquoi je me suis mis là-dessus. Peut-être plus facile à craquer à l'époque, je sais pas. Franchement, je sais plus trop. Et je commence un peu comme ça, donc très limité, je ne comprenais pas vraiment le fonctionnement. Vu que j'étais un peu bloqué, tu vois, genre je me suis dit, mais en fait, peut-être que je suis bloqué parce qu'en fait, je n'ai pas de clavier, tu vois. Et à cette période-là, je pense que, je ne sais pas, je devais avoir entre 14 et 15 ans. Et mes parents, ils voyaient déjà que, tu vois, j'étais hyper à fond dedans, tu vois. Et un jour, je rentre du collège ou du lycée, je ne sais plus exactement. Et mon père m'avait offert, tu vois, genre un clavier maître.
Mais
genre, tu vois, genre, je ne sais même pas d'où ça sort, tu vois. Enfin, même encore aujourd'hui, je me pose la question de comment il savait que c'était un clavier maître, que c'est ça qu'il fallait, tu vois, genre pour commencer et tout. Bon, forcément, il a dû demander au vendeur et tout. Mais il y a un truc un peu mystérieux de genre, je suis arrivé, ok, c'était là.
C'est mortel. Ouais, qui t'a accompagné dans cette ouais, envie et cette passion naissante, quoi.
Ouais, de fou. Du coup, à partir de là, je me suis mis à fond, j'ai geeké. De base, ouais, je suis un très gros geek. Donc, tu vois, genre, j'ai geeké de fou sur le fonctionnement et je me suis pas mal formé, tu vois, mais de manière autodidacte. Et à partir de là, j'ai commencé à essayer de reproduire les inspirations, tu vois, genre que j'avais et les tracks qui me plaisaient le plus, tu vois.
Donc, c'était les premières prods que tu as faites, c'était un peu des émulations de ce que tu écoutais à l'époque, c'est-à-dire Ryan Leslie, Timbaland, ce genre de trucs.
Complètement, ouais, complètement. J'étais dans un truc, c'est au final très tight beat, tu vois, genre à l'époque, mais pour juste essayer de comprendre cheminement, tu vois. Mais à aucun moment, tu vois, je me disais, je veux le même son que Timbaland ou c'est ça que je veux faire, tu vois. C'était juste vraiment une inspiration. Et je pense qu'au fond de moi, j'avais déjà un peu une fibre de je veux avoir ma signature, tu vois. Mais je veux que ma signature, elle découle de mes inspirations, tu vois.
Sur cette question des inspirations, il y a une question que je pose souvent aux producteurs qui viennent dans cette émission BPM. S'il y a une production faite par un des producteurs que tu écoutais, que tu aurais aimé adorer, toi aussi, avoir fait.
Je pense que ce serait pas dans les années 2000, tu vois. J'aimais bien le son, mais vraiment, je pense que c'est plus dans les années 2010-2015 où... Ouais, en vrai, ça a rien à... quand j'y repense, ça a un peu rien à voir avec le rap, mais c'est plus des morceaux de James Blake, tu vois.
Ok.
Ouais. Ah ouais. Pour moi, c'est vraiment genre le boss. In a world you've grown, few more years to go. Don't let the hurdle fall. Ces sons, ils sont complexes, ils sont très techniques.
Ouais.
Il y a une recherche de fou sur la production, que ça soit le traitement des voix, tu vois. Ou le mix, ou harmoniquement, tu vois, genre c'est hyper puissant, tu vois. Et moi, je suis un gars qui est vraiment porté sur les mélodies, tu vois. Mm-hmm. Genre, c'est vraiment, moi, c'est mon délire, tu vois. Genre, quand je commence à faire une prod, je commence toujours par la mélo et faut qu'il y ait un truc, tu vois, faut qu'il se passe un truc. Mais du coup, ouais, non, James Blake, c'est un artiste qui m'a hyper inspiré, tu vois. Genre, qui m'a hyper inspiré, ça m'a aussi énormément ouvert, tu vois, sur la manière de faire de la musique et sur l'approche, tu vois, aussi. Mais non, ouais, ce serait James Blake, définitivement, ouais.
À quel moment le fait de commencer à comprendre juste comment ça fonctionnait et puis de satisfaire cette curiosité et cette envie de créer, t'es passé à l'étape suivante, c'est-à-dire de faire écouter et d'éventuellement laisser la place à des interprètes sur tes instruments.
Ça a été très compliqué parce que en fait, ce qui m'attirait dans la production musicale, forcément, tu vois, il y a le ressenti, mais après, je pense que ça fait aussi partie de ma personnalité, mais j'aime beaucoup, tu vois, genre la complexité, tu vois, genre dans les prods, que ça soit au niveau des textures, de la manière de construire, des structures. Et du coup, en fait, je faisais des prods qui étaient relativement compliquées.
Ouais, tu vois, genre, c'était presque de la musique de film, en fait, ouais. Parce qu'il y a plein de, comme tu dis,
parce qu'il y a plein d'événements, ouais, parce qu'il n'y a pas assez de place forcément pour un interprète au final, tu vois, genre, comme j'ai commencé à faire un peu comme tout le monde, tu vois, genre de la musique dans mon coin, dans ma chambre, et que j'avais pas forcément d'interprète, tu vois, genre dans mon entourage, quoique, on y reviendra, j'en avais quelques-uns, mais c'est vrai que j'étais dans un truc de complexité et qui a fait que. Au final, quand je faisais écouter mes prods, c'était genre « Ok, c'est cool, mais il n'y a pas de place, en fait. Ouais. » Tu vois, genre, je peux pas poser dessus. Mmh. Et pour en revenir au côté interprète dans mon entourage, moi, j'ai grandi avec Jazzy Bass.
Ok.
Parce que, en fait, nos mères sont potes, étaient potes en Argentine et sont venues en France au même moment. Et tu en es de la même année, donc on a grandi ensemble. Et en fait, toute la culture musicale française en tout cas du côté rap, je l'ai eu en vrai grâce à Jazzy Bass, parce que lui, c'était un bousier, tu vois, de ça, mais vraiment très jeune. Et quand j'allais chez lui, tu vois, genre, il écoutait que ça. Donc, tu vois, il n'y a que à ce moment-là où en vrai, j'ai commencé à développer, tu vois, genre, ce side de écouter du rap français, tu vois.
Ça t'a plu au début ou pas ? Toi qui avais justement cette culture très afro-américaine au final, est-ce que tu as eu tout de suite une affinité pour le rap français ?
Honnêtement, non. Non, non, non. Franchement, non, pas spécialement, à part deux, trois artistes, mais qui étaient déjà dans un truc très quinri, tu vois, au final.
Ce qui a du sens au vu de ton parcours d'auditeur, quoi. Ouais.
Mais non, sinon, dans la globalité, non. Mais sur deux, trois artistes, complètement, mais parce que c'était vraiment, ils avaient ce... Et le charisme et le son, tu vois, genre américain, tu vois, que où j'étais vraiment, moi j'étais dedans, tu vois, genre j'écoutais que du R&B et du de la soul et du rap, mais US, tu vois. Mais sinon, non, j'avais un peu de mal, ouais, au début.
Du coup, juste pour l'anecdote, pour rebondir sur ce que tu disais, est-ce qu'il existe un morceau de Jazzy Bass de Twinsmatic?
Non, 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 même pas.
Même pas.
On en a fait, c'était quand il bossait sur Memoria.
Ah oui, donc c'est plus tardif, ouais.
Ouais, ouais, c'est plus tardif. Mm. Mais non, après, si tu connais, on faisait du son, mais pour rire, tu
bien
vois.
Bien sûr,
c'était,
oui, oui.
C'était, j'imagine bien. On était au lycée, mais c'était vraiment, tu vois, genre pour rire. Mais maintenant, sinon, lui, il a quand même un son qui est très marqué, tu vois. Mm-hmm. Genre, moi, j'ai aussi un son qui est très marqué.
Tout à fait.
Et lui, il a toujours été dans un truc très rap français, là où moi, je comprenais, mais c'était pas forcément le truc qui m'attirait le plus, tu vois. Mais non. On a fait des sessions sur son dernier album, mais au final, tu vois, genre, y a pas eu de cut, c'était juste des sessions. Et puis, c'était un peu aussi des sessions, tu vois, de retrouvailles, parce qu'on n'a pas forcément l'occasion de se voir... souvent et tout et donc ouais, c'était plus en vrai on catch, tu vois, ouais. On se catch et c'est cool, tu vois.
Je le disais tout à l'heure en introduction, Twinsmatic, c'était au départ un duo.
Ouais.
Quand est-ce que tu rencontres du coup ton comparse avec lequel tu vas créer ce duo?
C'était en sixième, c'était au collège. Mm-hmm. Donc c'était il y a très longtemps et je sais pas. Enfin, je sais qu'on était tous les deux genre des fans, tu vois, genre de justement de son Quinri et de R&B, tu vois. Et en vrai, c'est ça qui nous a liés, tu vois. C'est à partir de ce moment-là. Mais ouais, non, on s'est rencontrés très tôt. Ouais.
Et du coup, sur cette passion commune et sur le fait que toi, tu développais cette affinité pour la créativité et la création musicale, à quel moment, après cette rencontre, il y a eu cette envie de faire des choses ensemble?
Je dirais peut-être début du lycée, quelque chose comme ça, ouais.
Il a eu un cheminement similaire au tien, c'est-à-dire que lui aussi a eu cette curiosité et cette envie de créer de la même manière que toi aussi ou pas?
Je pense, oui, ouais. Tu vois, je pense que oui. Après, c'est vrai que moi, tu vois, j'étais dans un truc où je me disais, putain, ce serait trop bien de faire un duo et de le faire avec mon meilleur pote, tu vois. Et je pense que lui, bien sûr, il avait cette envie-là et tout, mais et de la même manière, tu vois, genre on partageait la même idée de faire un duo, ça peut être cool, tu vois. On a un peu genre les mêmes références, on aime le même son, on est attiré par les mêmes textures. Donc, tu vois, genre ça s'est fait naturellement, en vrai. Ouais.
Qu'est-ce que vous avez commencé à faire, justement, qui vous a permis de commencer à placer votre nom? J'ai vu des remixes. Est-ce que c'est un peu les ouais. premières choses qui vous ont permis, justement, de vous signaler et de montrer, justement, votre patte? Tu parlais, justement, de cette singularité.
Complètement, complètement. En fait, comme je te disais, on était dans des sons qui étaient... Enfin, des prods qui étaient relativement complexes. Du coup, pour avoir des artistes, c'était compliqué. Et puis même, tu vois, genre... Tu sais, il y avait cette période où on s'est dit ce serait bien d'attraper des acapellas et de faire des prods dessus. Mais tu sais, genre un peu le fantasme de dire, bah là, tu peux avoir... imagine si je fais un son avec Rihanna, qu'est-ce que ça donnerait, tu vois. Donc, on était un peu dans cette optique. Mais on voulait quand même avoir ce truc de contre-pied par rapport à la version originale.
Bien sûr, c'est tout l'intérêt du remix. Quoi.
Ouais, complètement. Mais on allait vraiment à l'opposé, tu vois. Limite, c'était un peu le challenge de se dire, OK, bah là, c'est un son club, bah, on va en faire un son triste. Et du coup, on en a fait peut-être un ou deux pour commencer. Et à l'époque, ça avait bien pris de fou. Et au final, on en a fait genre une genre de petite mixtape qui s'appelle Green Room. Et qui avait pas mal tourné, tu vois. Et qui était disponible à l'époque. Je pense que c'était même, tu vois, on mettait des liens Mediafire, genre pour que les gens ils puissent télécharger le truc. C'était un peu l'époque MySpace. SoundCloud. C'est devenu un peu après. Ouais.
C'était la période de transition entre ces deux-là, ouais.
Ouais, complètement. Mais ouais, non, les remixes, c'est sûr que, en fait, ça nous a permis de montrer un peu, tu vois, genre c'était quoi notre délire si jamais il y a quelqu'un, tu vois, qui pouvait poser dessus, tu vois.
De tous ces remixes, donc vous en avez fait beaucoup, évidemment, avec des grandes stars de la pop américaine, ouais. Ce genre de morceaux. Est-ce qu'il y en a un en particulier qui aujourd'hui, rétrospectivement, sur lequel tu as une forme de satisfaction, tu vois, sur lequel tu te dis, sur cette approche qu'on avait à l'époque, sur ces envies qu'on avait encore jusqu'à ce jour-là, jusqu'à aujourd'hui, il y a un truc qu'on a réussi à faire sur ce remix-là en particulier
Qu'on a réussi à faire, je sais pas.
Ouais.
On avait fait un remix de Beyoncé du morceau Ego. Qui avait pas mal tourné.
Qui est effectivement surprenant comparé à la,
ouais, à la version originale, ouais. Je sais pas si on a réussi à faire quelque chose, mais en tout cas, le truc qu'on a réussi à faire, c'est d'exprimer, tu vois, genre la créativité, pardon, qu'on avait et de le mettre en forme, tu vois, genre avec un interprète, une interprète là, en l'occurrence. Et c'était déjà une satisfaction, tu vois, genre de voir qu'on avait des bons retours et que ça pouvait plaire, tu vois.
À cette époque-là, donc justement, on est au début des années 2000, vers 2012, ouais, 2013.
Exact.
Quand on revoit tes crédits de production, il y a déjà un morceau quand même pour du rap français, qui est le morceau de Minuit, de Pink T.
Exact, ouais.
Qui est en featuring avec Ateyaba et 3010. Et c'est, tu vois, en le réécoutant aujourd'hui rétrospectivement, en le mettant en parallèle à ce que tu vas faire ensuite, même si tu as fait beaucoup de choses, mais tu vois, ce truc sur ce morceau d'avoir un beat trap avec, qui était la trappe comme elle était faite à l'époque, avec des hi-hats très agités, etc. Tu vois, mais un sample de voix féminin, tu vois, encore une fois, un pad très aérien.
Bah, le sample, c'était Alia, tout simplement.
Bah, voilà. Et tu vois, je trouve que déjà sur cette première trace discographique en France, je trouve que ça dit déjà quelque chose de ton son et de ce que tu veux développer, quoi.
Ouais, bien sûr, ouais. C'est assez marrant comment il s'est fait le morceau, mais c'est vrai qu'on avait une envie d'avoir... Au final, tu vois, genre, on a fait un morceau cloud avant que le style cloud, tu vois, genre, il arrive en France. C'est venu bien plus tard, tu vois, c'est venu genre 3-4 ans après. Mais on était déjà, tu vois, genre, dans cette zone-là.
Tout à fait, ouais.
Et après, forcément, ça, une des grosses, tu vois, inspirations qu'on avait, c'était le son de Toronto, tu vois, qui nous parlait forcément parce que... la fondamentale, si tu veux, c'est genre c'est quand même le side R&B qui est mélangé avec le Peura. Et donc forcément, tu vois, genre tout de suite, il y a une attirance par rapport à ce genre musical. Mais ouais, c'est assez marrant comment ça s'est fait. Et puis même, tu vois, c'était cool à l'époque avoir trois gars qui performent, tu vois, sur un track comme celui-là.
En 2014, Twinsmatic, vous sortez Sounds from Last Night,
ouais,
qui est un album à votre nom,
ouais,
un EP plutôt d'ailleurs.
Ouais, un EP,
plutôt
ouais, un EP.
Où d'ailleurs on sent très bien justement ces influences-là.
Ouais.
Mais à quel point aussi déjà vous essayez de les singulariser, tu vois. Je trouve qu'un morceau comme White Marble, par exemple,
ouais,
avec cette espèce de mélodie un peu jeu vidéo et qui termine presque en house à la fin, ça montre déjà ce truc de... On a ces codes-là, on les comprend, mais on essaie aussi de faire autre chose.
cette période-là, je sais qu'on était vraiment, tu vois, genre dans ce délire, tu vois, de son Toronto. Puis après, il y a, tu vois, moi, on bossait, tu vois, tous les deux chez Colette, donc une boutique à Paris qui a fermé depuis un moment.
Pour ceux qui n'auraient pas connu, c'était une boutique de mode plutôt.
Ouais, voilà, c'était un concept hype. Store ouais. Qui était très reconnu. Et en fait, il y avait un corner musique dans le shop où c'était essentiellement de la musique électronique, tu vois. Que ça soit French Touch ou... c'était très pointu, tu vois. Et moi, à cette période-là, je bossais au studio photo. Et en fait, mon taf, c'était de shooter, de faire des pack shots, tu vois, okay. des produits. Et dans les produits, il y avait... je recevais tous les CD de la boutique. Donc, je les enlevais du blister pour les shooter. Et en même temps, je les passais dans le Mac pour, tu vois, genre, mettre les sons de côté. Et en fait, c'est comme ça que, tu vois, genre, moi, je me suis construit une bibliothèque de sons électro. Et c'est là où, en vrai, tu vois, genre, je commence à rentrer dans le délire électro, à connaître des James Blake, Fortet, et des sons, tu vois, genre, très... très minimaliste, mais en même temps qui sont hyper puissants, tu vois, et qui collent complètement en fait avec le délire de Toronto.
Ce côté très nocturne et vaporeux, quoi.
Ouais. Complètement. Et du coup, tu vois, genre on est dans un mode où on se dit on kiffe le délire électro, on kiffe le délire R&B, mais qui vient vraiment de Toronto. Et on a un peu lié, tu vois, ces deux inspis. Et on les a fait à notre sauce. Et après, on a posé sur les tracks. Mais on a posé sur les tracks. Il n'y avait aucune volonté, tu vois, genre d'être interprète ou quoi que ce soit. C'était juste par manque d'interprète. Et que, en fait, tu vois, quand on faisait écouter les tracks, à cette période-là, les gars, ils n'arrivaient pas du tout à se projeter. Donc, c'était plus, en fait, des références tracks que des morceaux pour être interprète ou, tu vois, aller sur ce chemin-là, tu vois.
Est-ce que, du coup, ça t'a forcé à trouver des nouvelles ressources chez toi que t'aurais pas soupçonné, tu vois, de devenir toi-même un interprète sur tes propres morceaux?
Non, pas spécialement, non, vraiment pas. Vraiment pas. C'est pas du tout un truc qui m'a attiré, tu vois. Après, c'est un exercice que j'aime bien faire, tu vois.
Genre, ça a dû être formateur quand même, j'imagine.
Bien sûr, tu vois. Et puis même, il y a un truc qui est cool dans cet exercice-là, c'est qu'en fait, ça te permet de aussi te canaliser au niveau des prods et de comprendre qu'il faut de la place, tu vois. Que quand c'est ultra chargé, ou quand il y a trop d'événements, ça peut déstabiliser, tu vois, l'interprète et qu'il lui faut quand même une base mélodique pour pouvoir, tu vois, juste poser. Donc, à ce niveau-là, ouais, ça a été formateur et c'est un exercice qui est toujours amusant, tu vois. Genre, je pense que tous les gars qui produisent, quand ils font leur ligne mélodique, ils s'imaginent tout de suite, tu vois, genre une mélo au niveau de la top line, et ils arrivent à se projeter, tu vois. Donc, on a tous un peu ce truc-là, tu vois, les compositeurs. Mais après, une volonté d'être interprète et tout, non, vraiment pas. Ouais, vraiment pas. Moi, j'aime bien construire vraiment, tu vois, genre le morceau.
C'est intéressant ce que tu disais sur le côté signature track, justement, pour guider un peu éventuellement l'interprète. Parce que en 2015, vous sortiez un autre disque qui s'appelle Nowhere.
Ouais.
Sur lequel vous poussez encore plus loin justement les idées que vous essayez déjà de développer, avec peut-être parfois aussi des trucs plus nerveux, plus trap, sombres, etc. Et il y a un morceau qui s'appelle Used to Know, qui justement va devenir U2K, Used to Know, une autre version du coup, sur Nero Nemesis de Booba.
Exact, ouais.
Ça a été quoi le cheminement du coup de faire la musique de votre côté jusqu'à faire des remixes, d'ailleurs un remix de Booba qui s'appelle ici, d'avoir ces premiers contacts pour placer dans le rap français, notamment sur ce disque de Booba.
Tu vois, genre remettre les choses dans le contexte et tout. Nous à l'époque, on était signé chez Universal en publishing, et en fait. Il y avait la tournée le futur tour du coup qui se préparait et Et je pense qu'en interne, ils cherchaient quelqu'un pour faire les premières parties en tant que DJ. Et il y avait plusieurs profils qui avaient été soumis, dont le nôtre. Et au final, c'est le nôtre qui a été retenu. Et à cette période-là, du coup, on fait le futur tour en première partie en DJ, sur des DJ sets. Et du coup, on se connecte avec Booba. Forcément, c'était l'un des artistes avec qui... musicalement, tu vois, genre, on était attirés parce qu'il y avait le côté américain, tu vois.
Bien sûr.
Et c'est assez marrant parce qu'en fait, à la même période où on commence à faire le tour avec Booba, on est contacté par OVO où ils nous demandent si on est intéressé pour bosser avec eux. Et bref, après le tour, on part à Toronto pour capter les gars. Et vu qu'on est à côté de Toronto, enfin de Miami, pardon, on fait un saut à Miami pour capter Booba. Et en fait, à partir de là, on commence à faire écouter du son. Artistiquement, ça colle. Et du coup, on lui fait écouter les tracks qu'on a, tu vois, dont des ATR, Used to Know, qui sont sur l'EP, tu vois.
Tout à fait, ATR, tu vas être nowhere, ouais.
Exactement. Et du coup, d'abord, on fait ATR, en fait. C'est ça qui se passe. D'abord, on fait ATR. Et en fait, moi, je lui avais envoyé tout l'EP à cette période-là. Et il décide de prendre Used to Know, tu vois, pour en faire un morceau et le mettre sur Nero Nemesis.
Je sais comment faire, ça que passe n'a poulé. Je fais ton gros le bout, un tas sur nos poulets. Mes adversaires, vide ma mère, ils ont coulé. J'ai plus de temps pour toi, c'est ce que tu voulais.
Et justement, je trouve intéressant sur cette période 2015, c'est comment vous transformez ce son, comme tu le disais, voilà, très, très nocturne, très vaporeux, très romantique, parce que très inspiré du R&B, avec quelque chose de plus nerveux qui tire vers la trappe. Ça se sent sur Nowhere, ça sent évidemment aussi sur Talion, qui va finir sur Nero Nemesis. C'était des envies aussi que vous vouliez nourrir, justement, de faire un peu cette synthèse entre ces inspirations qui peuvent être, je dirais pas contraires, mais
bien sûr,
tu vois.
Bien sûr, parce qu'en vrai, ça a toujours été le propos, tu vois, dans le sens où, comme je te disais, on a commencé avec des remixes en prenant des morceaux et en allant à l'opposé. Mm-hmm. Et en fait, avec ce genre de process-là, on a développé genre un son hybride, tu vois.
Mm-hmm,
Et c'était ça le challenge, tu vois, genre constant, c'était d'avoir quelque chose de nouveau. Moi, tu vois, genre aujourd'hui, enfin pas qu'aujourd'hui, mais ce qui m'a toujours stimulé dans la musique, tu vois, la musique, c'est quelque chose où je fais énormément de parallèles avec la technologie, tu vois. Moi, j'aime bien quand c'est nouveau. J'aime bien quand c'est singulier. Je suis pas spécialement sensible aux morceaux qui sont génériques ou qui se ressemblent, tu vois, genre c'est pas quelque chose qui m'attire ou auquel je suis sensible, tu vois, genre moi ce que j'aime dans la musique comme dans la technologie, tu vois, c'est la nouveauté, c'est la progression. Mmh. Et du coup, ouais, c'était de trouver un peu, tu vois, genre cette formule à chaque fois de se renouveler en utilisant, tu vois, des genres qui sont différents, des codes qui sont différents. Et tu sais, comme dans un laboratoire, tu testes tes formules jusqu'à trouver, tu vois, genre quelque chose où tu dis genre, ok, là c'est cool, tu vois, genre ça j'aime bien.
Sur ce disque-là, Nowhere, justement, est-ce qu'il y a un ou deux morceaux sur de mémoire sur lequel, justement, sur cette nouveauté que vous vouliez créer, sur cette petite formule, tu vois, est-ce qu'il y a un ou deux morceaux qui te dit quelque chose là-dessus?
Bah, définitivement ATR.
Ouais.
Complètement, déjà le son, il a en termes de prod, il a un truc très très carré, tu vois, et le fait que Booba à cette période-là jump dessus, tu vois, et fasse la perf qu'il fait, tu vois, c'est incroyable en vrai. Donc ouais, c'est définitivement celui-là, je dirais, ouais, ATR.
Yeah, you look so real. Yeah, yeah, I saw you from across the room. You came alone, I'll buy you a drink.
surtout en plus avec, comme tu dis, il y a la perf, il y a cette de Booba, il y a cette teinte musicale, et puis il y a cette fin avec un piano un peu plus pop aussi.
Ouais,
donc
il y a
une sorte de progression aussi qui est intéressante, je trouve, dans un instrument comme celui-là.
Et même, tu vois, genre, moi, je sais qu'à cette période-là, genre, j'étais hyper surpris et de voir qu'en vrai, ça lui parlerait, ça lui correspondrait, tu vois, genre de fou. Moi, je me souviens quand il m'a envoyé le son, je me suis dit que c'était une dinguerie, tu vois, genre... que c'était très fort de lui, sa part, de poser sur un son comme ça, tu vois. Surtout qu'on est dans une période où il est dans un truc très, très sombre, tu vois.
Genre,
c'était très marquant, ouais.
On arrive en 2016, c'est une année importante pour vous parce que vous commencez à marquer encore un peu plus, justement, votre présence dans des sorties rap français. Il y a notamment un morceau qui a été marquant, je pense, à ce titre-là, c'est le morceau Autotune.
Ouais.
Et je trouve qu'il est intéressant parce que, je ne sais pas si tu veux partager cette idée, mais parfois la musique, c'est aussi développer des idées qu'on a commencé à toucher sur un morceau précédent. Et tu vois, sur Used to Know, il y a une espèce de synthé, tu vois, une espèce de motif que je trouve qu'on retrouve un peu dans Autotune et qui va plus loin justement sur l'intention qu'il y avait pu avoir sur Used to Know. Je ne sais pas si tu partages cette idée ou pas.
Et j'ai jamais fait le rapprochement, mais probablement, tu vois. Mm-hmm. En tout cas, c'est marrant que tu aies ce ressenti-là. Mais après, c'est des sons qui ont été faits à la même période, tu vois. C'est peut-être aussi pour ça.
Bien sûr.
Donc, probablement. Mais c'est vrai que je n'avais jamais fait le rapprochement, mais il y a une évidence de, vu que ça a été fait à la même période, on est un peu dans le même mood. Et après, ouais, non, Autotune, ouais, l'histoire, elle est assez drôle parce que du coup, je me branche avec Damso à cette période-là. Et il me dit de lui envoyer des prods. J'en envoie 3-4. J'en envoie 3-4. Mais dans le lot, je mets la prod de Autotune et en vrai, je sais même pas pourquoi je la mets parce que je me dis rien à voir, tu vois, genre vraiment, je me dis vas-y, kiffe le son, au moins il écoute et peut-être il me fera un retour de genre ouais, c'est cool, c'est pas pour moi, mais c'est cool, tu vois. Et au final, quand il me dit que c'est celle-là qui prend, tu vois, et qui veut garder, qui veut poser dessus et tout machin, moi déjà je suis hyper étonné, tu vois, parce que, tu vois, j'étais vraiment dans ce truc de genre, comment il va poser dessus? Parce que pour moi, c'était vraiment une prod limite d'ambiance, vois. Et j'étais hyper curieux et tout.
Oui, parce qu'elle est encore, peut-être encore plus planante, justement, que Used to Know dans l'attention.
Complètement. Il y a un truc très nocturne, très...
langoureux.
Ouais, exactement. Ouais. Ouais, c'est pile le mot. Et du coup, il pose dessus et... Et encore une fois, tu vois, c'est le même ressenti que quand Booba m'envoie ATR. C'est vraiment le même ressenti de genre, waouh, ok, d'accord, genre, le challenge, il a été complètement réussi et la perf, elle est incroyable. Et ils ont réussi, tu vois, genre, à transformer, tu vois, genre, les morceaux, tu vois, genre, qui sont des prods qui sont pas forcément hyper accessibles, tu vois. Et ils arrivent, tu vois, genre à jump dessus de manière incroyable, tu vois.
Elle veut mes enfants, mais je suis là que pour faire du sale. Mais je n'ose pas lui dire, je ne veux pas faire de peine. Et si je disais tout ce que je ressens sur l'instrumental, avec de l'autotune.
Une autre rencontre importante, parce que ça va forcément faire le lien avec ce dont on va parler tout à l'heure, c'est qu'il y a le morceau Million qui sort.
Ouais.
Qui est votre première connexion, en fait, en tout cas, qui sort avec Esprit Noir. Comment s'est fait, justement, cette première rencontre avec lui? Et est-ce que tu te souviens un peu du travail sur ce morceau-là, qui est un morceau très, très trap grandiloquent, tu vois?
Ouais,
là, on est sur autre chose, là.
En vrai, Esprit vient du 20e, je viens du 20e.
Donc, vous aviez des relations communes à un moment donné, quoi.
Ouais, voilà. On a des gens en commun. On se connaissait musicalement, mais pas encore, tu vois, genre personnellement, tu vois. Et c'était la période où 2015, ouais, on commençait à lâcher un peu de son. Et lui, il était attiré par justement ce genre de sonorité-là. lui, pour le coup, il a aussi toujours été dans un truc très rap US. Mm-hmm. Donc, je pense que
il a toujours été très sensible très tôt à toutes les nouvelles tendances qui pouvaient arriver.
Ouais, complètement, ouais. Et je pense que c'est un truc qui lui a parlé, tu vois, directement. Et du coup, on s'est branché, on a fait une session, on a fait ce morceau-là. Et ça a donné millions.
Lunettes sur les nez, trop moi d'un bâtiment en train de compter. Ce soir, on se fait pas fêter par les stars parce que l'engage est codé. Habillé, on célèbre, sans prier, on célèbre encore.
Donc c'est une première connexion qui portera ses fruits. Et vous avez toujours gardé contact depuis, quoi, j'imagine.
Ouais, complètement. Ouais. Ouais, complètement. Après, même, tu vois, genre, je me souviens que sur la suite de ces projets, on avait fait quelques sessions, mais il n'y avait pas eu de cut parce que c'était pas forcément la DA voulue, tu vois. Mais même, tu vois, genre, quand je reparle aujourd'hui avec lui, c'est vrai que je pense que pour lui, Million, ça a été genre quand même un déclic, tu vois, où il s'est dit genre, ouais, j'aime bien ce style-là. Et en fait, j'aimerais le pousser, mais peut-être que là, tout de suite, je peux pas, tu vois. Et tu vois, c'est comme pour Damso, le morceau Autotune. Pour moi, il est fort dans sa carrière parce que j'ai l'impression qu'il va définir un peu tout le reste, tu vois. Dans le sens où c'est sur ce morceau-là qu'il développe ce truc très trash, très cru, très lover, tu vois. Qui au final font que tu vois qui définissent Damso, tu vois, genre aujourd'hui, tu vois. Donc c'est vrai que sur Damso et sur Esprit, il y a quand même eu il y a pas eu beaucoup de morceaux, mais il y a eu des morceaux, tu vois, genre qui ont
été un peu charnières, quoi.
Ouais, qui ont été un déclic et pour eux, je pense, et pour nous, tu vois, genre à cette période-là.
2016-2017 aussi, vous collaborez avec un jeune artiste qui s'appelle Take a Mike.
Ouais.
Et mine de rien, avec lui, vous lui faites un peu ses... Vous arrivez à produire ses premiers tubes, quoi.
Ouais.
Je pense notamment à un morceau comme El Niño Terrible.
Ouais.
En travaillant avec un artiste comme ça, sur, pour le coup, vraiment du long cours, c'est-à-dire que sur un EP comme Bipolaire, si c'est pas l'intégralité, c'est quasiment l'intégralité que vous produisez.
Ouais, je pense, ouais.
Est-ce qu'il y a une forme de transformation ou d'étape de franchie pour vous sur de la réalisation, sur le fait de pousser des idées encore plus loin avec un interprète?
Complètement, complètement. Ouais. Pour en revenir à El Niño Terrible, c'est carrément, c'est en coprod avec Shabs.
Tout à fait.
Qui, c'est lui à la base, tu vois, genre qui start le track et que nous, on vient réaliser, tu vois, coproduire. Mais ouais, sur Take a Mike, ce qui était hyper intéressant, c'est que c'est la première fois, peut-être, ou l'une des premières fois où on a la possibilité de pouvoir réaliser, tu vois, genre des projets, enfin un projet, et pousser nos idées sur plus qu'un seul morceau, tu vois. Là où, en vrai, il y avait quand même une certaine frustration dans le sens où c'est bien de faire un morceau, mais t'as pas forcément le temps de t'exprimer, tu vois, genre...
T'es tributaire aussi de ce que veut faire l'artiste avec ton instru, quoi.
Complètement, et puis il y a... Autant, tu vois, genre, je pense que ça dépend des profils. Il y a des gens qui sont... Il y a des compos qui vont être très pertinents dans faire un track efficace pour un album, et t'en as d'autres qui tendent plus vers le truc de « j'ai une vision globale, je pense qu'on peut aller dans cette direction, et au final, tu vois, de réel. » Et nous, on était plus, tu vois, genre dans cette veine-là. Donc c'est sûr que c'était une très belle opportunité. Et puis même à cette période-là, tu vois, genre c'était le gars qui kickait, qui avait aussi, tu vois, des influences, tu vois, genre au final très carré, tu vois, que ça soit de par son style vestimentaire ou même le choix des prods, tu vois. La volonté artistique, en tout cas, tu vois, elle était très US. Donc, ouais, forcément, tu vois, genre, ça a matché à cette période-là et on a pu faire des bons morceaux, tu vois.
Je me retrouve toujours dans les salles.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
T'as putain me déteste, même voix partout. Dans mon sac, y'a 10 000 cartouches. Je pense au billet de 500 quand je me couche. Plus ça marche et plus tu jappes. Sur moi, y'a des bruits qui courent. Comment devenir milliardaire, sachant qu'à la base, on est bête en cours.
Y'a un truc, tu vois, qui a du sens au vu de ce que tu m'as raconté sur tes influences et comment tu les digères et comment t'essaies de les répercuter sur ta singularité. Y'a le morceau Bipolaire sur lequel y'a cette mélodie synthé un peu mystérieuse qui fait trap gothique de cette époque-là, mais. Sur le beat, y a des espèces de petites percus synthétiques ou le toum, toum, tu vois, y a un espèce de bounce en fait.
Ouais.
Ou sur la trap, on était surtout sur des trucs très droits. Où là, d'un seul coup, on peut ressentir aussi, tu vois, ces influences un peu extraterrestres qu'avaient les Neptunes ou les Timbo, tu vois.
Ouais, complètement. Ouais. Complètement. Mais après, je pense que c'est des choses qui définissent bien, tu vois, genre aujourd'hui, le son Twinsmatic, c'est que. Comme je t'ai dit, la volonté, elle a toujours été d'essayer, tu vois, de proposer quelque chose de différent. Alors, c'est sûr que ça ne va pas parler à tout le monde ou que ça peut mettre du temps, tu vois, genre à être compris, tu vois. Mais en tout cas, la volonté, elle a toujours été de se détacher du style générique et d'essayer d'avoir une propale, tu vois.
2017, c'est la sortie de l'album Trône de Booba,
ouais.
Sur lequel vous avez 4 productions.
Ouais.
Est-ce que là aussi, parce qu'il y a une prise de confiance de votre part, il y a l'ambition, en tout cas l'envie de pousser encore plus loin justement et de dire à Booba, on a cette vision-là sur ces morceaux-là, ou est-ce que vous êtes au contraire un peu plus en retrait, vous envoyez juste des trucs sur lesquels vous avez essayé de pousser des idées, mais pas forcément, tu vois, en collaboration avec lui, quoi.
Ce qui est assez marrant sur Trône, c'est qu'en vrai, quand on fait les morceaux, là, on en a fait 3, on était parti à Miami du coup, mais c'était, en vrai, l'album, il était quasiment fini.
D'accord.
Je pense qu'il, vraiment, ouais, quand on est arrivé, il nous a fait écouter quasiment full l'album. Mais il avait 2-3 tracks qu'il voulait encore placer. Et du coup, on fait les morceaux. Et après, en vrai, tu vois, Booba, c'est un très bon DA. Il a déjà une vision qui est très claire. Donc, en fait, il y a une collaboration dans le sens où nous, on a essayé d'interpréter, tu vois, à notre manière, tu vois, sa vision en faisant ce genre de prod-là. Mais il y a une collaboration, mais... En vrai, tu vois, ça reste Booba. Il est très pertinent et très fort, tu vois, genre dans ses choix. Et ce qui est en vrai, ce qui est ultra bénéfique, tu vois, genre quand tu bosses avec lui, parce que tu sais où il faut aller, tu vois. Après, il faut essayer de quand même, tu vois, genre avoir une proposition, parce que ça a toujours été quelqu'un qui, tu vois, genre il vit aux États-Unis, il est dans cette culture Kenry, tu vois. Donc, il a une approche aussi de la musique où il faut du neuf, tu vois. Moi, je me souviens quand j'avais écouté, tu vois, tous ses albums sur la période, en vrai, 2000-2010, c'est lui qui avait les meilleurs prods, tu vois. Mais parce que, justement, il y avait cette recherche de « je me prends la tête sur les prods, il me faut du nouveau son », tu vois. Et donc, ouais, il y avait une collaboration, forcément, mais toujours lui en leader. Et nous, on venait juste, tu vois, genre pour essayer d'appuyer sa vision avec nous, notre interprétation, tu vois.
Alors justement, sur cette synthèse entre sa vision et vous, votre interprétation, ce serait quel morceau, tu penses, sur cet album-là qui, aujourd'hui, avec le recul, te fait dire que c'est peut-être là où vous avez le mieux réussi?
J'aime beaucoup Drapeau Noir.
Ouais. Avec cette voix, cette espèce de sample de voix féminine. Là,
ouais. Ouais, ça j'aime beaucoup.
J'ai pas de parcours de Brandon, le bif de Denzel Washington. Si je tue un fils de pute, y'a pas mort d'homme. Le drapeau est une marque à blanc et pour ceux qui abandonnent.
113 avec Damso. Mm. En vrai.
En les, vrai, quatre.
Les quatre. Les quatre. En vrai, les quatre. Les quatre, je les trouve très forts. Ouais, non, les quatre, ouais. Ouais, ouais. Non, je pense que, tu vois, genre, en tout cas, c'est en ce qui me concerne et en toute objectivité, tu vois, genre, les collaborations qu'on a eues, la chance, tu vois, genre, de pouvoir faire avec lui, pour moi, il y avait toujours un truc, tu vois, genre... Il y avait toujours un truc frais, il y avait toujours une propale. Non, c'est pour moi, tous les morceaux qu'on a faits, ils étaient forts, tu vois. Genre, ça marchait bien, quoi.
À partir de 2019, on vous voit encore sur des crédits de pas mal d'albums. Dosset sur son album Vidal Vassat, ouais. Take Mac encore une fois avec Avant-Gardiste. Le morceau Ennemi de Damso sur Lithopédion.
Yes. Ouais.
Drugstore de Rimka. Là, vous avez installé votre nom. Mm-hmm. Est-ce que du coup, vous cherchez aussi à, tu vois, vous disiez, pousser une certaine vision et une interprétation de ce que peut être l'univers d'un artiste, mais tout en gardant votre singularité? Est-ce que c'est votre démarche là, maintenant que vous avez un nom installé et que c'est plus simple aussi de, avec des artistes comme ça qui, en plus, sont déjà installés aussi, on parle de Dossier Rimka qui sont ateliers du rap français,
ouais.
Voilà, de dire, voilà, on peut te proposer ça et on aimerait aller au bout de cette idée que nous, on a pour toi sur tel ou tel morceau, quoi.
Bien sûr.
Ouais,
ouais, ouais. Complètement. On a toujours cette volonté d'essayer de développer, tu vois, genre notre vision, notre approche, tu vois, de ce que ça pourrait être, tu vois, genre en essayant de faire, de toujours respecter quand même un minimum, tu vois, genre les codes du rap français, tu vois, mais en essayant d'apporter notre touche. Après, même encore aujourd'hui, tu vois, c'est pas tout le temps simple. Tu
J'imagine,
vois.
Parce que c'est...
Parce que
faut être deux pour danser, comme on dit.
Ouais,
donc, il faut arriver à trouver un terrain d'entente.
Ouais, complètement. Et je pense que, tu vois, c'est pour ça qu'au final, on a fait des bons morceaux avec des artistes qu'on kiffe, tu vois, que ça soit humainement ou artistiquement. Mais on n'en a pas fait des tonnes, tu vois. Et la volonté, elle n'a jamais été d'être en hitmaker et de faire des raz-de-marée, de singles à toute patate, tu vois. Le but, c'est de ramener une propale, tu vois. Genre, moi, je suis vraiment à propos de ça. C'est que les gens, ils écoutent le track et qu'ils se disent, OK, c'est différent, tu vois. Après, ça fait ce que ça doit faire, tu vois. Mais je veux qu'il y ait que ça touche, tu vois, genre les gens. Et après, d'un point de vue industriel et commercial, tu vois, genre, ça, c'est tellement aléatoire qu'il y a tellement de paramètres qu'en vrai, et puis même, ça ne m'intéresse pas spécialement, tu vois.
De rentrer dans cette économie du placement
non.
À la chaîne, ça ne t'a jamais intéressé, quoi.
Non, tu vois, genre, je n'ai jamais envoyé de pack. Genre, moi, c'est un truc où je ne suis absolument pas du tout sensible à ça. Parce que... Parce que, tu vois, genre, pour moi, la musique, c'est un échange qui doit d'abord passer par l'humain,
ouais.
Tu vois. Je me vois mal envoyer des sons à quelqu'un, tu vois, et qu'au final, je me rends compte que humainement, tu vois, genre, ça passe pas. Ou... Mais non, pour moi, la musique, c'est un échange. Donc, je suis... tu sais, même quand je fais des sessions avec des artistes où c'est la première fois qu'on se rencontre, on a toujours, genre, 2-3 heures où on va discuter avant de faire du son. Et tu vois, pour moi, c'est hyper important de capter l'énergie de la personne et de voir comment elle est, tu vois, ce qu'elle dégage. Parce qu'en fait, moi, c'est ce qui va me servir à faire, tu vois, la prod sur mesure. Pour la personne. Je m'appuie sur la conversation qu'on a eue juste avant, tu vois, genre, et sur le ressenti que j'ai pour pouvoir, tu vois, genre, créer une prod sur mesure, tu vois. Et puis même, j'aime bien l'idée de, tu sais, d'être un architecte où tu viens me voir, tu me dis que tu veux telle prod comme ça, que tes inspirations, elles sont X ou Y, et te faire un truc sur mesure, tu vois, genre, pour moi, c'est un... En tout cas, ma vision de la musique, tu vois, genre, elle est comme ça. Après, il y a d'autres manières de faire, tu vois, genre, que je respecte, mais auxquelles je suis pas sensible, tu vois. Mais je respecte le job quand même.
2020, c'est la sortie de l'album Atlas, signé Twinsmatic.
Ouais.
Je sais plus à quel moment... Est-ce que c'est à ce moment... T'es déjà tout seul à ce moment-là ou pas?
Ouais, ouais.
À quel moment, en fait, il y a eu ce truc où finalement, tu t'es retrouvé tout seul?
Quelques mois avant, en vrai, tu vois, quelques mois avant la conception. Du coup, ouais, c'est... Il y a eu quelques morceaux, je crois, où on était encore deux. Mais sinon, dans la globalité, non. Ouais, j'étais quasiment solo sur le projet, ouais.
Est-ce que du coup, le fait que vous ne faisiez plus de la musique à deux, que tu te retrouves tout seul... ça t'a déstabilisé justement sur la créativité parce qu'il y avait certaines choses sur lesquelles l'un ou l'autre pouvait être moteur ou pas nécessairement?
Non, pas nécessairement parce que dans le process qu'on avait, ça n'a pas eu d'impact, tu vois, sur ma manière de faire de la musique ou ça n'a pas non plus, tu vois, genre obstrué ma vision de comment faire les morceaux. Où, non, vraiment, ça n'a pas eu d'impact sur mon process créatif. Okay. Pas du tout, tu vois. Et puis même, tu vois, il y avait peut-être un truc de peut-être un peu plus de liberté aussi, tu vois. Parce que forcément, quand tu es à deux, il faut se mettre d'accord sur certains choix, tu vois. Genre, quand bien même les inspirations sont les mêmes... on reste deux êtres singuliers, tu vois.
Bien sûr.
Donc non, ça, il y a un truc de créativité peut-être qui s'ouvre un peu plus, tu vois. Mais non, ça n'a pas eu d'impact.
Sur justement ce sentiment de libération de certaines choses, est-ce que sur des morceaux de cet album de producteur, donc, on le rappelle, il y avait Ashkid, SCH, Marge, 13 Block et Cobaladé, il y avait beaucoup de monde, Dinos aussi. Est-ce qu'il y a des morceaux qui sont, je dirais, significatifs de ça? C'est-à-dire des trucs où tu sens que ça t'a libéré de quelque chose, de te retrouver tout seul et que ça t'a permis de pousser des idées que toi, tu avais vraiment envie de développer individuellement, quoi, tu vois.
Un morceau comme X2 avec SCH, exemple, tu vois.
On va reprendre la vie en vrai, mec. En kilo, fuck, en gramme, tu causes euro ou pas, jamais centine. 100 000, 200 000, combine sur combine, écho dans le combine. J'rempile et j'rempile, j'rends la concule, c'est bail. On passe pas l'éponge, non, on passe en moto. Déclassé.
Même l'intro avec Marge.
Marge, ouais. Oui, qui est très pop, mélancolique.
Complètement,
ouais, ouais.
Complètement. Et puis, tu vois, genre, il y a un truc aussi dans mon son, c'est que j'ai toujours été attiré par les musiques de films, tu vois. D'où, à chaque fois, les outros sur les morceaux, tu vois, genre, que je produis, où il y a une petite place, tu vois, genre, pour pouvoir s'exprimer. Ou même en termes de structure, parfois, tu vois, genre ça peut changer et tout. Mais c'est un truc sur lequel je m'appuie pas mal. Et sur Atlas, en vrai, dans sa globalité, tu vois, genre j'aime bien l'idée de raconter, tu vois, genre une histoire en étant producteur, tu vois. Et que le fil conducteur, tu vois, ça soit... la production, mais tu vois, genre, forcément avec les transitions, tu vois, genre, qui aident,
ouais.
Et qui ont, c'est un peu genre...
Entre la transition entre Grollo et Encaissé, par exemple,
ouais.
C'est assez beau comment c'est fait, quoi.
Ouais, même celle entre le morceau avec Dinos et celui avec SCH, tu vois, genre... tu vois, pour moi, c'est vraiment... pour moi, c'est un genre de mini-movie, tu vois. Genre, entre les transitions et puis même, toujours le challenge de passer d'un morceau, tu vois, genre celui avec Dinos. Il a un peu un côté trap, mais un peu plus mélancolique,
tout à fait.
Un peu plus sombre.
Ah ouais.
Et celui avec SCH, tu vois, on est sur quelque chose de plus ouvert, un peu plus solaire, tu vois, toujours trap. Mais il y a le challenge de passer d'un mood à un autre, tu vois.
Et, chercher du contraste, quoi.
Exactement, tu vois. Et c'est comme une scène de film, tu vois. Tu peux être sur quelque chose d'assez sombre et la scène d'après qui relate une autre histoire, mais t'as quand même la transition qui vient faire le cheminement de... T'as pas une coupure sec, tu vois.
Vous commencez à ce moment-là à travailler beaucoup avec H-Kid.
Ouais.
Est-ce que ça n'a pas été d'avoir un artiste comme ça un bon moyen pour toi de reprendre quelque chose, justement, de redévelopper quelque chose sur ce côté élégant, romantique, R&B, finalement?
Bien sûr.
Ouais.
Bien sûr, bah, en vrai, la connexion avec H, elle se fait comme ça. C'est que à l'époque où on découvre, c'est... il a cette sensibilité-là, tu vois, genre, qui est, je sais pas, peut-être conscient ou inconscient, mais qui est évidemment tiré, tu vois, pour moi, du R&B. Mm-hmm. Donc, ça reste un challenge, ça reste quelqu'un de talentueux. Donc, ouais, tu vois, genre, c'était intéressant de bosser avec lui.
Il y a un morceau en particulier sur lequel tu sens que tu as réussi à, encore une fois, tu vois, à développer une idée d'aller jusqu'au bout d'un univers, encore une fois, entre ta vision, la sienne, tu vois.
Ouais, mais qui ne sont pas sortis.
D'accord.
Ouais, ouais,
c'est
ouais.
Pas nécessairement des morceaux qu'on connaît déjà.
Non, ouais, ouais. Ouais. C'est mais en vrai, la plupart du temps, c'est comme ça,
ouais.
Tu vois. Mais après, j'entends. Il y a quand même soit un cahier des charges à respecter, mm-hmm, pour certains artistes, tu vois. Soit ça ne va pas forcément rentrer dans la DA. Donc, tu as soit le côté un peu industrie, qui prend le dessus, soit artistique, mais ça dépend des profils.
Sur cette période-là, depuis justement la sortie de ce premier album un peu signature, un peu justement, je pense, carte de visite, qui a été, à mon avis, Atlas, il y a eu deux choses. Il y a eu à la fois le fait de continuer à faire des placements dans le rap, je pense, mm-hmm, à un rappeur comme Box,
ouais,
continuer à faire des choses pour Frénétique aussi, un jeune, ouais, artiste. Et en même temps, déjà, en 2019, vous produisez pour Elia.
Mm-hmm.
Ensuite, on en parlait, il y a Marge, mm-hmm, il y a aussi Ordaya.
Ouais.
Qu'est-ce que ça a nourri chez toi d'avoir justement ces jeunes artistes féminines en plus,
mm-hmm,
donc peut-être avec une sensibilité, des approches différentes en termes d'écriture, d'interprétation. T'avais, voilà, ça a pu te permettre de satisfaire des envies de faire des choses plus pop, plus R&B aussi, justement, avec des artistes comme ça.
Ouais, complètement. Mm. Complètement. Tu vois, comme je te disais en début de conversation, tu vois, le premier blast qui me vient en tête, c'est Alia, tu, mm-hmm, vois. Donc, c'est la connexion Timbo-Alia. Donc, forcément, il y a toujours cette envie, tu vois, genre d'essayer, tu vois, et de nourrir, tu vois, genre, ce comment dire,
cette envie là en fait.
Cette envie, tu vois, mais et puis même ça fait du bien dans le sens où ça permet de faire autre chose, tu vois, ça permet de sortir d'une certaine zone, de pouvoir développer d'autres idées, expérimenter d'autres choses, retranscrire d'autres émotions. Et je pense que, en tout cas, tu vois, pour moi, c'est ce qui est hyper important dans la musique, c'est de pouvoir un peu diguer, explorer, tu vois, genre d'autres univers.
Clairement, moi, quand j'écoute ce que tu fais avec Marche, par exemple, je pense, ouais, à un morceau comme Oceanside,
ouais,
je sens qu'il y a un peu ce côté laboratoire idée, tu vois, l'envie de pousser des trucs un peu nouvelles, des pistes nouvelles pour toi, quoi.
Ouais, complètement. Préféré, tu vois, et parce qu'il y a ce truc un peu pop, un peu dark, un peu électrique, mm-hmm, tu vois, qui m'anime beaucoup, tu vois, genre surtout à cette période-là, tu vois, à laquelle on l'a faite, mais même encore aujourd'hui, tu vois, c'est un mood, tu vois, genre, ce qui est assez marrant, c'est, tu parles de Oceanside, en vrai, on peut presque le mettre à côté d'un son comme NDSM que j'ai fait avec Bébé Jacques, mm-hmm. tu vois, où t'as cette ambiance dark,
ouais.
électrique,
ouais, ouais.
Bah avec des inspis complètement électro, tu vois. Ouais, non, il y a le côté laboratoire et en vrai, il y aura toujours le côté laboratoire, tu vois. C'est une des raisons pour lesquelles, tu vois, genre, je continue à faire du son, c'est que c'est trouver un peu des nouvelles manières, des nouvelles recettes, une nouvelle technologie, tu vois.
J'allais y venir à cette année, justement, 2022, aussi bien sur ta collaboration avec Bébé Jacques sur New Blues Old Wine qu'avec Dinos aussi sur Hiver à Paris.
Ouais.
Tu vois, encore une fois, comme tu le disais, ces rencontres humaines et le fait de se nourrir, tu vois, des inspirations et des envies des artistes, on sent que ça te laisse un espace de créativité pour développer d'autres choses avec ces deux artistes-là sur Hiver à Paris et sur New Blues Old Wine. Parlons déjà d'Hiver à Paris, qui est un album sur lequel j'ai vraiment la sensation, pour avoir écouté Dinos, qu'il avait vraiment une vision justement sur... tu parlais de séquençage, tu vois, tout à l'heure, par exemple, pour ton propre album Atlas, lui aussi, il avait cette envie-là. Mm-hmm. Tu produis par Amour, ADN, Rue de Sèvres. Est-ce qu'il y avait, toi aussi, tu vois, ce truc de vouloir répondre musicalement à cette idée et cette ambition qu'il avait pour cet album-là, quoi?
Complètement. Ouais, non, complètement. Et puis après, avec Dinos, on a un peu les... On écoute un peu les mêmes choses.
C'est un grand, grand fan de Ovio aussi.
Ouais, voilà. Donc, il y a un truc qui est assez évident, assez simple à développer, mais tout en respectant lui, sa volonté, sa démarche artistique, tu vois. Donc, quand bien même c'est évident, il y a toujours, tu vois, genre un peu un challenge. Mm-hmm. Mais quand même, c'est relativement... En tout cas, pour moi, c'est relativement simple de bosser avec Dinos, tu vois. Genre, les tracks, vraiment, on les a fait très vite. Genre, vraiment très vite.
Est-ce que tu les fais pas aussi très vite parce qu'avec la discipline accumulée de ton côté, justement, ta créativité, elle est plus facile à mettre en exécution?
Ça, forcément, ça joue. Mais quand bien même, des fois, il faut synchroniser avec les artistes.
C'est vrai.
Tu vois. Mais évidemment, tu vois, genre que... Ça va, une prod, ça va pas me prendre, tu vois, genre 6 ans à faire. Ça me prend pas non plus 10 minutes parce que je suis quand même beaucoup à propos de...
Chercher la bonne texture.
Exactement.
Chercher les bons drums qui correspondent à la texture du synthé que tu vas choisir, etc. Quoi.
Complètement, ouais. Ça, c'est des trucs sur lesquels, tu vois, je me prends beaucoup la tête, même d'un point de vue genre harmonique ou progression d'accords, tu vois. Genre, je vais me prendre la tête dessus. Mais ça ne va pas me prendre, tu vois, genre toute une journée. Mais non, pour en revenir à Dinos, on se synchronise assez rapidement, tu vois. Genre, je comprends très vite sa volonté. Je fais une progression d'accords et puis, tu vois, genre, il commence à poser. Et puis, ce qui était cool dans le process, en tout cas, tu vois, sur Hiver à Paris, c'est que... je sais qu'il était dans un truc où il écrivait plus trop. En fait, il allait directement en cabine et il était limite en impro, tu vois.
Ouais.
Et ce qui est cool, parce que c'est un autre type d'exercice, tu vois. Mais ce qui est aussi cool, c'est qu'il est vraiment bon, tu vois, à ce genre d'exercice-là. Et que les morceaux, ils sont pliés rapidement, tu vois. Donc, ouais, je pense que vraiment, on a dû passer, maximum 2-3 heures avec le recording, tu vois, genre pour plier les morceaux. Après, il y avait peut-être un peu de réal à faire derrière, mais le morceau, il était déjà bouclé assez rapidement, ouais.
Question que je t'ai posée pour des albums précédemment, sur cet album-là, ce serait quoi justement le morceau sur lequel tu as une forme d'attachement, tu vois, sur la réalisation, tu vois, l'aboutissement d'une idée artistique?
Rouge Drama,
ouais.
J'aime beaucoup.
Trouver l'amour maintenant c'est le graal. Trouver l'amour maintenant c'est le graal. Un peu de Rouge Drama sur tes lèvres. On n'est pas obligé d'être amoureux pour s'aimer.
Le mariage. Je ne vais pas dire exactement pourquoi, tu vois, c'est vraiment un truc de ressenti. C'est pas forcément un truc de j'ai trop kiffé genre cette progression d'accord ou ou la perf ou machin, c'est vraiment...
C'est le mood.
Ouais, c'est le mood, tu vois. Rouge Rama et Rue de Sèvres aussi, ouais, ouais. Rue de Sèvres.
Je crois que c'est sur les morceaux que vous faites ensemble, moi aussi, je crois que c'est Rue de Sèvres, ouais, mon préféré, avec ce truc très grandiloquent encore.
Ouais, de fou.
Je trouve que vous arrivez bien à faire tous les deux, en fait, ensemble, mm-hmm, sur ce truc. Et plein de petits accidents rythmiques, en plus, dans le beat. Enfin bref, moi, encore une fois, tu vois ce contraste entre, ouais, truc très, très grandiloquent, très aérien, et c'est, tu vois, plus terrestre, tu vois, plus terre-à-terre, ouais, de la rythmique. Ouais. Je trouve ça intéressant. Et donc, oui, on disait, il y a Bébé Jacques. Tu citais ce morceau qui est NDSM, qui est un truc très cinématographique, effectivement, un morceau comme ça.
Ouais. Ouais.
Bébé Jacques, qui a un style très singulier aussi. C'est-à-dire, mm-hmm, quand il arrive avec son style de rap, c'est atypique.
Ouais.
Est-ce qu'il y avait des idées claires aussi dans, tu vois, tu le disais tout à l'heure, de vision sur lequel il faut arriver à répondre, toi, en tant qu'artiste. Est-ce que toi, tu avais aussi une vision pour lui, tu vois, comment ça s'est fait un petit peu sur vos collaborations, sur cet album?
Bah, lui, moi, je suis arrivé en cours de process, tu vois, sur l'album. Donc, il y avait... c'était relativement facile parce qu'il avait déjà un bon squelette, tu vois, de l'album, avec une DA bien précise. Donc, ça aide. Tu vois, on n'est pas parti de zéro où il faut se prendre la tête et tout. Moi, je me suis un peu greffé à déjà ce qui avait été fait, tu vois. Notamment, en vrai, le taf qu'il avait fait avec BBP, où ils avaient déjà un peu, tu vois, développé cet univers-là, un peu sombre, un peu froid. Et en vrai, NDSM et Intérieur Scandinave, ce qui est marrant, c'est que ça rentre dans l'album, mais c'est que c'est des morceaux qui n'ont pas forcément été réfléchis pour l'album, tu vois. Moi, tu vois, le NDSM, il est un peu en ovni,
ouais, de fou,
vois, sur le projet.
Eh pétasse, j'aurais pu tout mettre à ton nom. Je commence à peur, à suivi par 25 pèlerins et mon ombre. Pas assez niais pour vous tirer mon nous. Une fois que tu perds, tu deviens plus humble. Sinon, espèce de chmal, tu vois plus rien.
Mais il y a un truc qui marche hyper bien avec sa voix, avec son interprétation, avec son texte. Enfin, tu vois, genre, je trouve que c'est un style qui lui correspond hyper bien. Mais de la même manière que, tu vois, genre, Intérieur Scandinave, où on est sur quelque chose de plus léché, plus...
Plus élégant,
ouais, un peu plus soi, tu vois.
Ouais, genre, feutré.
Ouais, exactement.
Un peu comme Bijoutier, d'ailleurs, aussi, avec le saxo, le piano céleste, tu vois, il y a un peu ce truc-là, ouais.
Et tu vois, c'est là où lui, il a été très intelligent, tu vois, c'est de nous mettre en studio avec BBP et moi, tu vois, pour pouvoir faire ce genre de collaboration, parce que, tu vois, c'est là où, au final, tu te rends compte que le gars... c'est plus qu'un interprète, tu vois. Même c'est plus qu'un artiste, il a une vision, tu vois, il a une vraie DA. Tu vois, c'est comme des artistes comme Damso qui se disent, OK, en fait, cette combinaison-là de compositeurs, le mélange, il peut être pas mal, tu vois. Je sais qu'ils ont des styles qui peuvent bien matcher et on va tester un truc, tu vois.
Tu connaissais BBP, par exemple, avant ?
Je le connaissais de blase, mais oui. Et puis même on suivait, tu vois, mais je me demande si... Non, on s'était croisés une fois en studio, mais rien à voir, tu vois, genre lui, il bossait dans une cabine et moi dans une autre. Et c'était à l'époque, on s'était croisés chez Belek, dans son studio, dans son ancien studio, où en vrai, on bossait sur... Tous les deux, on bossait sur des sons pour la crime, tu vois. Mais non, là vraiment, avec BBP, tu vois, genre c'est à partir de là où on commence à se brancher, tu vois, genre, et au final, il y a pas mal de similitudes, tu vois, genre dans la volonté artistique, tu vois, je dirais même pas que dans le son, tu vois, où lui aussi, tu vois, genre avec les productions qu'il a pu faire pour PNL, il y a ce truc aérien, feutré, tout ça. Mais je pense qu'on partage, un peu la même vision du point de vue artistique, tu vois, genre sur la volonté de bosser avec que ce soit des artistes en développement ou des artistes installés, et de ramener, tu vois, genre un truc frais, tu vois. Donc, on s'entend hyper bien humainement et artistiquement. C'est relativement facile aussi, tu vois.
On arrive en 2024 avec ce fameux album La Cour des Miracles de l'Esprit Noir.
Ouais.
Tu le disais, vous n'êtes jamais perdu de vue. Vous avez même fait quelques tentatives en studio. Mmh. Qu'est-ce qui a été déterminant pour que finalement, tu réalises et que tu produises entièrement, avec des musiciens également, on va en parler, ouais. Mais cet album, qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné pour que tous les deux vous vous retrouviez, que finalement, cet album se concrétise?
Moi, je sais que tu vois, genre, bah, je venais de sortir Atlas, donc j'étais un peu dans une période de... où je me suis dit, bon, je voulais faire un projet, je l'ai fait, donc j'avais un peu de temps, et je pense que lui, il était aussi dans un process où il se disait... J'ai fait deux albums qui ont marché, qui sont cool, mais j'ai envie de tenter autre chose, tu vois.
Qui avait le côté peut-être un peu blockbuster, c'est-à-dire l'envie d'avoir des hits et l'envie de travailler avec plein de gens.
Ouais. Je pense. Je sais que quand il est venu me voir au studio, c'était genre, OK, celui-là, je veux le faire avec toi. Je suis toujours resté sur un peu la fin de Million, et puis cette curiosité de voir où ça peut aller sur tout un projet, tu vois. Donc lui, il était dans ce mood-là, et puis moi, tu vois, genre quand il me propose le truc, ça me branche parce que je me dis que c'est l'opportunité de pouvoir réaliser tout un projet et de développer une vision, tu vois, genre de Esprit Noir à ce moment-là, tu vois, de sa carrière. Donc ouais, on se branche à ce moment-là et puis on commence rapidement à bosser en studio, à faire pas mal de tracks. Après, ça a pris du temps parce qu'il y a eu pas mal de paramètres. Lui, il avait une série Netflix, tu vois, genre sur le côté, qui a pris pas mal de temps, tu vois, sur le tournage. Mais on a fait pas mal de morceaux, tu vois. Puis on a testé aussi pas mal de styles. Et ouais, on a fait à peu près entre 80 et 90 morceaux, tu
quand
vois,
même.
En tout, ouais.
Est-ce que, du coup, toi, puisque là, t'es vraiment totalement à la réalisation du truc, t'as dû aussi parce que je le disais, il y a des musiciens aussi, tu t'es vraiment transformé en chef d'orchestre. Tu parlais de ton goût pour les musiques de film notamment. Ouais. Est-ce que tu as vraiment eu le sentiment de te transformer complètement en chef d'orchestre et d'avoir non seulement une vision dans le détail, parce qu'il y a plein d'idées dans chaque morceau de cet album, mais aussi d'avoir cette vision globale, c'est-à-dire d'allier le détail et le micro et le macro, quoi.
En fait, quand on a commencé à bosser sur l'album, c'est juste en fait, naturellement, on enchaînait les sons et ils étaient déjà cohérents, tu vois. Et en fait, au bout d'un moment, dans le process, on s'est dit qu'on voulait aller un peu plus loin et que ce serait bien de faire intervenir. Lui, il avait déjà en vrai cette volonté-là. Au tout début de l'album, il avait déjà en fait l'idée, tu vois, de faire intervenir des musiciens. Je me souviens, je crois, la première fois qu'on se voit en studio pour parler de son album, tu vois, genre limite, il me parle de faire la musique un peu worldwide, tu vois. Donc, il est quand même dans une autre approche et dans une autre volonté. Et du coup, une fois qu'on avait tous les morceaux, tu vois, genre quasiment tous les morceaux, on est parti dans un studio à Bruxelles qui s'appelle l'ICP. Avec des musiciens, donc avec Enzo, avec Paul, avec Jean, Elvin, et aussi avec Owen en ingé. On est parti là-bas, on a fait deux résidences de à peu près 10 jours, tu vois, pour repasser sur les tracks, les arranger, les booster, et ça a pris, tu vois, genre un autre step. Et forcément, tu vois, genre, il y a un peu ce rôle de chef d'orchestre. Et encore, tu vois, genre, j'irais pas jusqu'à dire chef d'orchestre, tu vois. Genre, c'est sûr que quand t'es réel, il faut backer un peu, tu vois, genre, tout le process. Mais en vrai, les gars avec qui j'étais, ils sont tellement chauds. Et là où ils sont chauds, ils sont, tu vois, c'est des très bons musiciens, mais au-delà d'être des très bons musiciens et des très bonnes personnes, tu vois, genre, c'est surtout des gars, et c'est là que je les respecte de ouf, qui ont su très vite s'adapter et comprendre le propos artistique qu'on voulait sur le projet, tu vois. Et ça, en vrai, c'est hyper rare, tu vois. Genre, et c'est là où ils ont été très forts, tu vois. Et mais après, oui, le rôle de chef d'orchestre, c'est de la direction musicale, tu vois, plus en vrai. C'est plus ça, en vrai.
Quand on pense à tout ce qu'on s'est dit, et tout, surtout tout ce que toi, tu nous as dit justement sur tes goûts, ta culture musicale, sur un album comme ça, il y a ce qui s'ouvre avec, par exemple, l'Auréole, où il y a ce synthé très grandiloquent, cette texture qui fait penser à du James Blake, t'en parlais tout à l'heure.
Ouais, un peu
t'es
mis pas là.
T'es mis pas là, exactement, ouais, tu vois, bah t'es mis pas là.
Ouais, c'est complètement la ref.
Voilà.
Mais même au niveau des accords, tu vois, genre... même, tu vois, genre quand on le fait, on se dit, bon, ça fait un peu t'es mis pas là. Ok, mais tu vois, c'est une suite d'accords qui est relativement simple et évidente. Et par rapport aux textures, ouais, on était là-dedans. Même le fait d'avoir une vraie batterie, d'avoir des vraies guitares électriques qui sont harmonisées comme Mike Dean peut le faire sur du Travis et tout.
Tout à fait.
Ouais, c'est complètement la volonté, tu vois. C'est même pas un rip ou c'est même pas genre on a voulu copier. C'est juste la volonté, c'était ça, de se rapprocher de cet univers-là, tu vois, genre pour l'intro. Et au final, ouais, ça donne. Le résultat qui se rapproche de ce genre de texture. Mais tu vois, il y a un truc très cool de se dire qu'on se rapproche plus de Tame Impala, James Blake, que d'autres choses, tu vois.
Bien sûr.
Faut des talles, faut des vrais billets. Que je vole comme un joueur de NBA. Quand je déchue mon auréole, c'est réel. Et tout est devenu bien trop réel.
Et justement, je trouve ça intéressant, il y a une direction comme ça. Un morceau comme Kawasaki qui fait, je trouve, très R&B années 2000, justement, avec cette petite guitare.
Complètement Neptune.
Complètement Neptune, ouais. Ce truc très bounce, justement.
Il
y a des choses qui tirent presque vers la soul. Je pense à un morceau comme Blue, tu vois, ou avec cet orgue, ce piano, tu vois, qui font très soul. Sur la fin de l'album, il y a des choses qui tirent aussi presque vers la musique électronique, tu vois. Tu nous disais tout à l'heure à quel point on a beaucoup écouté.
Ouais.
Et ça s'entend d'ailleurs avec Urdaya, tu vois, sur le dernier disque sur lequel vous avez travaillé ensemble. Il y a aussi des directions comme ça.
Complètement, ouais.
Et pour autant. Il y a une vraie cohérence qui ressort de l'album, je trouve. À quoi c'est dû, à ton avis? C'est-à-dire à cette exigence et ce pointillisme que tu peux avoir, que peut aussi avoir Esprit parce que c'est son album pense qu'il a voulu que ce soit un peu un album signature. Voilà. Est-ce que c'est il y avait cette idée de on a plein d'idées parce que c'est aussi quelqu'un de curieux musicalement comme tu l'as dit, mais il faut pas se disperser, il faut qu'on arrive à faire tout tenir de manière cohérente, quoi.
Bah, la cohérence, en vrai, elle émane, je pense, déjà forcément de lui, sa manière d'interpréter sur les tracks, tu vois, genre qui va être le fil conducteur. Et après, c'est un truc que je saurais pas vraiment expliquer, tu vois, genre en ce qui me concerne, c'est... j'ai l'impression parfois de faire des trucs très différents, mais au final, tu vois, genre tout s'emboîte bien. Tu vois. Je sais pas à quoi c'est dû, tu vois. Et peut-être que j'ai même pas envie de comprendre.
Bien sûr.
À quoi c'est
dû. Des fois, il faut pas intellectualiser les choses.
Ouais, voilà. Parce que j'ai l'impression que ça fait un peu partie de, tu vois, c'est un peu ce côté magique, tu vois, genre quand je fais un son de start et de pas savoir vraiment où ça va, mais essayer de le faire rentrer, tu vois, dans l'histoire. Donc, dans l'histoire du projet.
Bien sûr.
Mais du coup, ouais, après, la cohérence, je pense qu'elle vient s'affirmer aussi avec les transitions qui permettent, encore une fois, de rendre le truc plus solide, tu vois.
D'avoir une expérience d'écoute, quoi.
Ouais, complètement. Et en vrai, c'est aussi un projet... sans rentrer dans le délire de on a voulu faire un projet conceptuel et tout machin. C'était pas vraiment le but, mais c'était plus de proposer, encore une fois, tu vois, genre d'avoir cette proposition artistique d'expérience, tu vois. Et je pense que, en tout cas, tu vois, genre, lui comme moi, comme même les gens qui sont intervenus sur le projet d'un point de vue musical, on est tous, tu vois, satisfaits et contents du résultat, tu vois.
Vous pouvez l'être.
Ouais, merci.
Une dernière question sur cet album-là, sur un morceau. Alors, je pense à Signe, mais il y en a un autre là qui ne me revient plus en tête. Au début, on a l'impression que c'est une voix sous effet de distorsion, ce qu'on entend. Est-ce que c'est un synthé? C'est une voix que tu as passée ensuite, toi, dans un effet, un logiciel, etc.
Ah, c'est sur Signe.
Ouais.
C'est complètement la voix d'esprit.
Eh bien, écoute, c'est super que tu me le confirmes. Ouais. Est-ce que ce n'est pas hyper intéressant d'avoir aussi un interprète avec une voix, avec un timbre vocal aussi singulier pour pouvoir aussi avoir de ce genre d'expérience-là à faire?
Bien sûr.
Ouais.
Bah, bien sûr. Bien sûr. Quand, tu vois, genre, surtout, moi, je suis beaucoup porté sur le traitement vocal.
Ouais.
Et forcément, avec Esprit, c'est... Tu vois, genre, dès qu'il pose, t'as l'impression que sa voix, elle est autotunée, tu vois. Enfin, il y a un truc...
Oui, il a un timbre vocal particulier.
Il a une signature vocale qui est très marquée et qui est puissante, tu vois. Donc, ouais, forcément, c'est hyper agréable, tu vois. Genre, ça... En fait, ça ouvre le champ des possibilités, tu vois, genre, sur le traitement vocal de... Que ça soit de la trafiquer, soit de couper, tu vois, genre, mais c'est sûr que ça appelle à ce genre de technique et de process, tu vois, ouais complètement.
Ratus m'a dit, claque pas ton bénef dans les sapes. Il y a ses baisses, a toujours sa place dans mes sacs. Je traîne avec Poulaï Konaté, je traîne avec Maxence Mémé. Je connais tous les coins du boulevard, je connais la gueule des képis.
On arrive à la fin de cet entretien. C'est quoi un peu tes envies dans le futur? Est-ce que tu veux redévelopper ce que tu as développé par exemple avec Esprit? Mm-hmm. Est-ce que tu veux trouver des nouveaux talents comme tu as pu développer ces dernières années cette collaboration avec quelqu'un comme Marche par exemple, ouais, ou Mordaya? Là, comme ça, à chaud, à court ou moyen terme, c'est quoi un peu tes envies en tant que musicien, toi?
Mes envies, bah écoute, c'est de continuer en vrai plus m'orienter sur... sur la casquette de réalisateur, tu vois. Comme je t'ai dit, moi, je suis pas trop dans les placements. Mm-hmm. J'aime bien créer, développer un univers musical. Donc, ce serait plus être dans un truc de réalisateur, mais tout en composant, tu vois. Et aussi, me concentrer plus sur mon son, tu vois. Je pense que je vais faire une suite sur Atlas. En fonction des disponibilités des gens, parce que le problème, c'est pas de faire les morceaux, mais c'est plus d'essayer de se caler sur les plannings, tu vois. Et sur le côté de développer vraiment moi, mes sons, peut-être, tu vois, genre même sans interprète, et de pousser mon délire un peu plus cinématographique à travers des projets personnels. Donc sans interprète, développer aussi, tu vois, genre le side un peu électro, où en vrai j'ai fait énormément de sons, mais je les ai pas sortis, c'est des trucs qui sont plus, je les ai fait pour le kiff, mais je me dis qu'il y a quand même un partage à faire, tu vois, donc ouais. C'est un peu ça, la suite que j'envisage. Et en vrai, de continuer à essayer de, bah, tu vois, de progresser, de m'améliorer, d'apprendre, de développer des sons, tu vois. Que ça soit en solo ou avec des artistes. Mais la volonté, c'est toujours de chercher des nouvelles sonorités, ouais.
Dernière question que je pose à tous les producteurs qui passent au micro de BPM. Si tu dois te présenter à quelqu'un qui ne connaît pas ta musique et que tu as une seule production de ton répertoire à pouvoir lui faire écouter, ce serait laquelle?
Je dirais Autotune.
Avec de l'autotune, ça passera peut-être.
Merci à toi, Twinsmatic, d'avoir été avec nous.
Merci à toi pour l'invite.
Merci à vous d'avoir écouté BPM, le podcast de conversation avec des producteurs de Bouscapé. N'hésitez pas à vous abonner pour écouter les précédents épisodes et les prochains. Portez-vous bien et à bientôt.
the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.